VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, le monde aujourd'hui, édition du mercredi 2 janvier 2019, en direct de Washington, Jean-Roger Lyon
et Michel Joseph.
On commence par les titres.
En RDC, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, a confirmé mardi que les résultats provisoires des élections seront rendus publics au plus tard dimanche 6 janvier. Mais la remontée se fait sans Internet, coupée par les autorités.
Près de 40 personnes ont été tuées mardi au Mali. Le massacre est la résultante d'affrontements intercommunautaires entre agriculteurs Peuls et chasseurs traditionnels Dogon.
Au Soudan, une vingtaine de formations politiques appellent à un changement de régime. Le Soudan vit au rythme de manifestations sur fond de crise monétaire aiguë avec une inflation galopante.
Ici aux États-Unis, le président Trump invite républicains et démocrates à des discussions pour mettre fin au shutdown. 25% des administrations fédérales sont paralysées depuis le 22 décembre, faute de budget.
Ne manquez pas notre passeport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Les résultats provisoires des élections en RDC d'ici à dimanche, c'est possible, a affirmé mardi la Commission électorale nationale indépendante, CENI, dans un communiqué. Mais la compilation des résultats se fait alors que le pays est privé d'Internet. Les explications de notre envoyé spécial à Kinshasa, Abderrahmane Dia.
Dans un communiqué rendu public hier, la CENI rassure que les opérations de ramassage, de centralisation et de compilation dans les 179 centres de compilation se poursuivent normalement. L'instance électorale dit cependant déplorer des actes de vandalisme dans 4 localités et assure que des plaintes seront déposées dès ce mercredi. Elle félicite le peuple congolais pour son patriotisme affiché le 30 décembre, jour du scrutin. Pendant ce temps, Internet reste coupé sans explication officielle, une situation qui a poussé l'Union européenne et les États-Unis à demander au gouvernement congolais de ne pas bloquer les moyens de communication. Dans un tweet, le nouvel ambassadeur des États-Unis à Kinshasa, Mike Hammer, affirme souhaiter aux Congolais la paix, une transition démocratique et l'Internet débloqué. Abderrahmane Dia, VOA Afrique, Kinshasa.
Nous reviendrons dans la deuxième partie de cette édition sur la coupure d'Internet, les frustrations et les conséquences, mais aussi des fraudes présumées dans le Sud Kivu.
L'opposition et la société civile au Gabon continuent à afficher leur scepticisme quant à la capacité du président gabonais à gouverner, alors qu'une vidéo où Ali Bongo s'exprimait pour la première fois depuis son accident vasculaire cérébral, AVC, a été diffusée lundi soir. La majeure partie de l'opposition et des membres de la société civile réclame une expertise médicale sur l'état de santé du président Bongo.
Les capacités d'Ali Bongo sont substantiellement affectées et il faut décréter la vacance du pouvoir et la mise en place d'une transition démocratique, a écrit l'activiste des droits de l'homme Georges Mpaga sur Facebook. La vacance n'a pas été déclarée par la Cour constitutionnelle qui a transféré en novembre une partie des pouvoirs du président au Premier ministre et au vice-président.
Le gouverneur de la région anglophone du nord-ouest du Cameroun a été attaqué lundi par des hommes armés à Bamenda qui ont blessé un des policiers chargés de la sécurité de l'administrateur. La riposte des policiers qui l'accompagnaient a permis de repousser rapidement les assaillants, a assuré une source sécuritaire. Aucun des groupes séparatistes connus en zone anglophone n'a revendiqué l'attaque.
37 morts hier au Mali, tous des civils, avec en prime de nombreuses habitations incendiées. C'est le bilan d'une attaque sur le village Peul de Koulogon, dans le cercle de Bankass, dans le centre du Mali. Les blessés graves ont été admis à l'hôpital général de Mopti. Les détails avec Kassim Traoré.
Il était 5 heures du matin quand des hommes armés en tenue traditionnelle de chasseurs ont encerclé le village de Koulougoupel, situé à 35 km de Bankassville. Quand ils ont ouvert le feu, toutes les voies de secours étaient coupées. Cette descente musclée contre des civils aux mains nues a occasionné la mort de 37 personnes, dont le chef de village Moussa Diallo, des blessés, des greniers vidés et des habitations calcinées. Honorable Karim Keïta, président de la commission commission défense nationale du Parlement malien.
Je condamne ces attentats-là. C'est vraiment consternant. Comme vous le savez, de débuter l'année par cela, et nous nous étions venus pour nous réjouir aux côtés de nos forces de défense et de sécurité. Et voilà que cet événement tragique survient. Et je tenais vraiment à condamner cela avec la dernière vigueur et présenter par la même occasion mes sincères condoléances aux familles endeuillées.
Aussitôt informé, le gouvernement a envoyé un détachement de forces armées maliennes afin de sécuriser la zone et de procéder à des ratissages. Le procureur de Mopti a été saisi aux fins de diligenter des enquêtes. Cela, selon le gouvernement, n'empêchera pas la poursuite du DDR et le dialogue intercommunautaire dans la zone. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Soudan, une vingtaine de formations politiques appellent à un changement de régime. C'est la solution selon l'opposition pour surmonter la crise qui secoue le pays depuis le 19 décembre. Les précisions, Yacouba Ouedraogo.
La situation ne peut changer qu'en établissant un nouveau régime dans le pays qui puisse gagner la confiance du peuple soudanais, estiment 22 formations politiques, y compris certaines proches du gouvernement. Leur communiqué ajoute que le pouvoir de Béchir n'est pas en mesure de surmonter la crise en raison de son isolement politique, économique, régional et international. Elle demande la mise en place d'un nouveau gouvernement de transition qui convoquerait des élections. Le gouverneur de la Banque centrale, Mohamed Kair Al-Zuber, a déclaré que sa banque chercherait à réduire l'inflation à 27% en 2019 en augmentant la production de produits de première nécessité comme le blé, le pétrole et le sucre. Les manifestations ont gagné depuis mi-décembre plusieurs villes, y compris Khartoum, après une hausse des prix du pain passée d'une livre soudanaise à 3. Des bâtiments et bureaux du parti au pouvoir ont été incendiés. Au moins 19 personnes ont été tuées, selon un bilan officiel. Amnesty International fait état de 37 morts. Plusieurs leaders et militants de l'opposition ont été arrêtés. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé les autorités à enquêter sur les morts. Le président Béchir a ordonné hier la création d'une commission d'enquête présidée par le ministre de la Justice sur ces violences meurtrières.
En Guinée, le procureur d'une cour criminelle de Conakry a requis lundi soir des peines allant de 10 ans de prison à la perpétuité contre les assassins présumés de la directrice nationale du Trésor public en novembre 2012. Dame Aissatou Boiro avait été tuée le 9 novembre 2012 dans son véhicule dans un quartier résidentiel de Conakry par des inconnus dont l'un portait l'uniforme de l'armée guinéenne. Le procès de ces assassins présumés s'était ouvert le 20 novembre 2017, mais il a été plusieurs fois suspendu. Le verdict a été mis en délibéré au 7 janvier.
Le gouvernement somalien a ordonné à l'émissaire des Nations Unies pour ce pays de quitter le territoire en l'accusant d'ingérence délibérée dans ses affaires intérieures. Cette décision survient quelques jours après que ce responsable, Nicolas Essom, eut exprimé son inquiétude face aux actions des services de sécurité somaliens soutenus par l'ONU dans des violences récentes qui ont fait plusieurs morts. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Somalie, Nicolas Essom, n'est plus le bienvenu en Somalie et ne peut plus travailler dans le pays, a déclaré mardi soir le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président des États-Unis, Donald Trump, a invité mardi les leaders républicains et démocrates au Congrès à une rencontre pour tenter de mettre fin au shutdown, la paralysie partielle des administrations fédérales. Les deux camps semblent dans l'impasse. Les adversaires démocrates de M. Trump souhaitent la tenue d'un vote sur une loi budgétaire dès qu'ils prendront jeudi le contrôle de la Chambre des représentants, où ils ont pris la majorité aux républicains lors des élections de mi-mandat en novembre.
Mais l'avenir de ce projet de loi semble incertain car il ne contient aucun financement pour la construction du mur que M. Trump veut édifier sur la frontière entre les États-Unis et le Mexique pour bloquer l'immigration clandestine. Or, le président républicain a le pouvoir de veto sur les lois du Congrès et il a encore répété lundi qu'il voulait un mur solide pour lequel il réclame une enveloppe de 5 milliards de dollars. Le shutdown paralyse 25% des administrations fédérales depuis le 22 décembre, dont certains ministères cruciaux.
Donald Trump a déclaré mardi qu'il avait hâte de tenir un nouveau sommet avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, qui s'était dit la veille prêt à rencontrer une nouvelle fois le président américain à tout moment. Washington exige une dénucléarisation totalement vérifiée du Nord avant toute levée des sanctions, alors que Pyongyang accuse les États-Unis d'exiger son désarmement unilatéral sans faire de concessions.
En Syrie, au moins 19 personnes, dont la plupart étaient des combattants, ont été tuées mardi dans des affrontements entre des djihadistes et des groupes rebelles dans le nord de la Syrie, a rapporté mardi l'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH. Ces affrontements ont opposé le groupe djihadiste Hayat Tahrir al-Sham, dominé par l'ex-branche d'Al-Qaïda et une coalition de rebelles, et ont eu lieu dans l'ouest de la province d'Alep, a indiqué l'OSDH. Les deux formations sont à couteau tiré depuis 2 ans et s'affrontent régulièrement pour prendre le contrôle du territoire.
Et maintenant, la Minute Éco avec Nani Talani.
En Afrique du Sud, des millions de travailleurs bénéficient depuis hier de l'entrée en vigueur d'un salaire minimum d'un montant de 20 rands l'heure, soit environ 800 francs CFA. Ce salaire mensuel de 3500 rands va profiter à 70% des travailleurs agricoles et à 90% du personnel de maison. Les entreprises en difficulté financière seront dispensées de l'appliquer. Son instauration est une première en Afrique du Sud qui possède l'économie la plus industrialisée du continent. Au Burundi, la compagnie minière Rainbow Rare Earth a publié une estimation de ressources inexploitées pour son projet de terres rares Gakara, qui héberge plus de 1,2 million de tonnes de minerais. Gakara est devenue la première mine de terres rares à entrer en production en Afrique, conférant à Rainbow Rare Earth le statut d'unique producteur de ces métaux rares sur le continent et l'un des rares producteurs en dehors de la Chine. Enfin, à partir de ce mois, les banques centrales de la zone euro cesseront comme prévu d'émettre des billets de 500 euros. On reproche à cette coupure de faciliter les activités illégales. Leur mauvaise réputation leur a même valu d'être surnommés billets Ben Laden. Les coupures de 500 euros actuellement en circulation resteront légales et pourront continuer à être utilisées comme moyen de paiement. En outre, elles garderont de manière permanente leur valeur et pourront être échangées auprès des banques centrales de la zone euro sans limite de temps.
À présent, le sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour Jean-Roger, bonjour à tous.
La CAF a dévoilé l'identité des 3 finalistes pour le titre de Ballon d'Or africain.
Il s'agit exactement du même trio qu'en 2017 avec l'Égyptien Mohamed Salah, tenant du titre, son compère sénégalais de Liverpool Sadio Mané et le buteur gabonais d'Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang, lauréat en 2015. Le vainqueur de 2018 sera connu le 8 janvier lors des CAF Awards qui auront lieu à Dakar au Sénégal.
Yacouba, on fait le bilan sportif de l'année 2018 au Burkina Faso.
Oui, le cyclisme et les sports de main ont engrangé des médailles au cours de l'année 2018. Par contre, au football, les résultats sont en deçà des attentes. On fait le point avec notre correspondant à Ouagadougou, Salif Kabore.
La plus belle page de l'histoire du sport burkinabé a été écrite par Mathias Sorgou au 31e tour du Faso. Il a été sacré maillot jaune du tour.
Sincèrement, je suis un homme comblé parce que pour moi, c'était un rêve de remporter le tour du Faso.
En Louge Life, porté à l'épaule, Cheikh Ahmed Hassan Sanou, alias Iron Bibi, est sacré champion du monde avec le Britannique Eddie Hall lors des championnats du monde en Angleterre. Les deux hommes ont battu le record qui était de 212 kg en soulevant un poids de 213 kg.
C'est une fierté pour moi et c'est un défi à relever parce qu'il faut montrer que c'est possible.
La grande déception est le football, où la qualification des étalons à la CAN 2019 se fait toujours attendre. Mais on note la qualification des étalons juniors à la CAN de leur catégorie au Niger. En sport de combat. En karaté do, les étalons ont brillé au championnat d'Afrique ici à Ouagadougou. Ils ont raflé 29 médailles, dont 12 en or, 6 en argent et 11 en bronze. Marc Kuala est aussi champion du monde en heptathlon lors du meeting combiné de Gladno en République tchèque. Fabrice Zongo a offert l'or au Burkina au triple saut, à Asaba au Nigeria en championnat d'Afrique d'athlétisme. En Vovinam Djedvoudaou, le Burkina Faso a également brillé au 5e championnat du monde à Bruxelles en Belgique. Ouagadougou, Salif Kabori, VOA Afrique.
Basketball, pour finir avec vous Jean-Roger, les résultats de la nuit dernière en NBA.
Eh bien, Yacouba, Philadelphie a disposé des Clippers de Los Angeles 119-113. Toronto a dompté Utah Jazz 122-116. Milwaukee a apprivoisé Detroit 121-98. Les Knicks de New York ont perdu devant Denver 108-115 et Portland a pris le meilleur sur Sacramento 113-108.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Jean-Roger Billon. Nous passons maintenant à nos dossiers de ce jour. On commence par la RDC, au troisième jour sans Internet, alors que les opérations de dépouillement et de compilation des résultats se poursuivent après les élections du dimanche 30 décembre, ce qui n'est pas sans conséquence pour les médias en ligne. Pour évaluer les désagréments liés à cette mesure, Eddie Sango a joint le secrétaire général de l'Association des médias en ligne en RDC, Eric Chikuma.
Sans Internet, aucun média ici en République démocratique du Congo ne peut fonctionner. Donc nous sommes pénalisés et nous ne savons pas combien de temps cela va durer. Est-ce jusqu'à la proclamation des résultats? Est-ce jusqu'à la proclamation définitive des résultats? Est-ce que ça sera au lendemain de la proclamation? Personne ne sait ici en République démocratique du Congo, jusqu'à preuve du contraire, combien de temps cette mesure va durer. Entre-temps, des millions de Congolais ne seront pas informés, des milliers de Congolais qui sont à travers le pays ou au-delà des frontières de la République démocratique du Congo ne pourront pas avoir l'information de ce qui se déroule ici en République démocratique du Congo. Donc nous sommes pénalisés, les médias sont à l'arrêt, les rédactions ne fonctionnent pas depuis 24 heures, c'est au deuxième jour aujourd'hui, nous tendons vers le 48 heures et c'est vraiment attentatoire à l'exercice de la liberté de la presse en République démocratique.
Et au niveau de la transparence des élections, c'est que cette coupure intervient juste au moment où on a commencé les dépouillements ou encore la compilation des résultats. Vous pensez que ça peut avoir un effet sur cette transparence des élections?
Ce n'est pas simplement une question de transparence. Je pense que il y a un élan pris par les uns et les autres à travers le pays pour pouvoir publier des résultats à travers les réseaux sociaux, à travers des SMS, ces partages d'informations, ce qui risque dans un contexte aussi tendu, pouvoir perturber l'ordre public, créer de soulèvements à gauche, à droite. Mais est-il que, je pense, les Congolais ont veillé à sécuriser les résultats à partir de bureaux de vote et ils aimeraient voir ces résultats être publiés tels que par la Commission électorale nationale indépendante. Si cela ne sera pas fait, puisqu'il y a d'aucuns qui estiment que ces résultats pourraient être tronqués, ils ne pourront que utiliser le procès-verbal qu'ils ont recueilli au niveau de bureau de vote pour pouvoir le présenter en contentieux électoral.
Tous les rapports qui sont sortis font état des témoins et d'observateurs qui ont été chassés de certains bureaux et même certains incarcérés jusqu'à ce moment-ci. Est-ce que vous, les médias, vous avez pu avoir une couverture assez large pour une idée beaucoup plus complète de ces résultats, par exemple?
Moi, personnellement, j'ai observé dans un bureau de vote, suite à la dénonciation notamment de médias, ils ont été contraints à ramener tout le monde au bureau de vote pour pouvoir continuer les opérations.
Eric Chikuma, secrétaire général de l'Association des médias en ligne. On reste en RDC. Les membres de la coalition camp du changement de Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe au Sud Kivu accusent la CENI d'avoir tripatouillé les résultats des urnes en défaveur des candidats de l'opposition. Ils disent avoir découvert du matériel électoral utilisé, puis jeté selon les opposants à plus de 15 km des centres de vote. Le point avec Ernest Mouhérou.
Selon le porte-parole de l'UNC au Sud Kivu, maître Alfred Maïsha, des paquets de bulletins issus du vote, dit-il, en faveur du candidat président Félix Tshisekedi et d'autres candidats députés de l'opposition à Bukavu ont été retrouvés jetés à plus de 15 km des bureaux de vote. Dans une adresse à la presse, la coalition cache de l'opposition au Sud Kivu précise que dans ce lot de matériel retrouvé à Chidao, en territoire de Walungu, figurent des procès-verbaux des opérations de vote du centre du collège Alfadjiri et de l'école primaire Nyamugo à Bukavu. Vous. Maître Maïsha soutient que les jeunes de l'UNC et de l'UDPS ont trouvé plusieurs sacs de ces matériels abandonnés, mais devant la presse, la délégation n'a présenté qu'un échantillon. Alfred Maïsha.
Tous ces procès-verbaux et même des bulletins de vote ont été emballés dans beaucoup de sacs notés CENI et on est allé jeter à Chidao. Ça, c'est un paquet de bulletins votés. Président Tshisekedi, numéro 20. Ici, ce sont des procès-verbaux, des élections. Ça, c'est législative. Ça, c'est l'élection présidentielle. Ça aussi, c'est présidentiel. On ne peut pas admettre que la CENI prenne tous ces procès-verbaux ils jettent dans la rue et cochent maintenant de nouveaux procès-verbaux qu'ils vont mettre maintenant dans les bureaux de compilation et tromper l'opinion.
La tension était perceptible mardi après-midi au siège provincial de la CENI au sud Kivu, qui a été pris pratiquement d'assaut par des candidats de l'UDPS et de l'INC, exigeant la présence des responsables de la CENI sud Kivu pour expliquer comment des bulletins et procès-verbaux des élections présidentielles et législatives effectuées au centre-ville de Bukavu ont pu se retrouver jetés à l'arrière-province. Contacté, le secrétaire exécutif provincial de la CENI au sud Kivu, Godens Maeshe, dit qu'il n'est pas normal de crier à une quelconque substitution ni changement des résultats. Pour lui, il s'agit d'un colis dont il n'est pas au courant de la perte et que tout sera fait pour tirer cela au clair. Les plis de vote de chaque site ont été chargés dans un camion sécurisé par la police. Il explique qu'avant cette opération, le résultat des dépouillements et le procès-verbaux avaient été déjà affichés dans chaque centre de vote et des copies remises aux témoins et observateurs. Godens Maeshe.
Mais s'il y a un colis qui était perdu, ce n'est pas un colis d'un parti politique donné. Comme ils ont dit qu'ils l'ont trouvé intact et qu'ils l'ont éventré, si réellement il était perdu, ils devraient l'amener au bureau et dire voilà, nous venons de trouver ce colis. Ils sont en train de dire qu'on a changé les résultats. On les a changés où? Parce qu'au CELCER, on n'avait même pas encore réceptionné le pli d'Alfagiri. Les PV étaient affichés encore au bureau. Je les ai vus là-bas. Les PV sont entre les mains de leurs témoins.
Le représentant de la CENI dit déplorer les menaces verbales contre sa personne et ses collaborateurs. Pour lui, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, puisque, dit-il, à l'étape du dépouillement et apurement, tous les résultats seront comparés avec ce qui a été déjà publié dans les centres. Maeshe appelle à l'apaisement et promet de rencontrer les candidats de l'UNC et IDPS pour que tout soit mis au clair. De Bukavu, Ernest Mouero pour VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Bukavu sur 97.4 FM.
Direction la Centrafrique, l'année 2018 a été une année de progrès, mais aussi de violence en RCA. Même si le pays a fait des efforts sur les plans économiques et sécuritaires, plusieurs localités échappent encore au contrôle de l'État et sont régulièrement soumises aux atrocités. Les Centrafricains souhaitent que l'année 2019 soit une année de paix et de stabilité socio-économique. À Bangui pour VOA Afrique, la correspondance de Freeman Sipila.
Pour de nombreux Centrafricains, l'année 2018 n'a rien apporté de bien au pays, même si quelques avancées ont été enregistrées dans la restructuration de l'armée nationale. Plusieurs localités sont encore en coupe réglée entre les bandes armées qui y règnent en maître. Assassinats, incendies de maisons, attaques des sites des déplacés, situation humanitaire alarmante, la liste est longue, déplore ces Centrafricains rencontrés à Bangui.
En tant que Centrafricain, je dirais que l'année 2018 est une année aussi très meurtrière. Centrafricain, comme les années précédentes aussi. Pour l'instant, le gouvernement n'a pas encore totalement maîtrisé la situation sécuritaire pour empêcher la montée des violences.
Concernant le problème sécuritaire, bon, on voit un peu, ici à Bangui, ça va mieux un peu, mais c'est au niveau des provinces qu'il y a des impédicaries qui se déroulent encore, mais néanmoins, on est là, on observe quoi.
Eh bien, on peut dire que c'est une année qui s'est bien passée malgré tout. Et que c'était pas comme les années précédentes, la République centrafricaine a fait de son mieux pour pouvoir garder le temps.
Nous souhaitons que l'année 2019 soit une année de paix pour les Centrafricains.
Je souhaite que pour cette année, le gouvernement puisse prendre la situation sécuritaire en main.
Pour Jacques Mbosso, médiateur de la République, 2018 a été une année d'espoir, mais aussi de grandes préoccupations.
Une année d'espoir, pourquoi? Parce que les efforts entrepris au niveau, par exemple, économique, à travers la mise en œuvre du RCCPA, ces efforts-là ont commencé à donner des résultats, pas des réalisations concrètes.
Je crois que le peuple centrafricain n'est pas encore sorti des difficultés. Beaucoup de nos concitoyens, dans l'arrière-pays notamment, sont confrontés à des violences quotidiennes. Et donc, c'est trop dire de pouvoir affirmer que la situation de nos concitoyens s'est améliorée. Il y a eu des tueries en masse. La situation est loin d'être présentée comme un état d'amélioration.
Le médiateur de la République souhaite que 2019 soit l'opposé des années passées.
Oui, le souhait, c'est que l'année 2019 soit tout à fait l'opposé des années que le peuple centrafricain a vécu jusqu'à présent depuis 5 ans. Vraiment, nous souhaitons que l'année 2019 soit l'année du retour à la paix véritable. Ce n'est pas une paix qui soit seulement en apparence, mais que le peuple centrafricain, dans ses différentes composantes, recommence à vivre en paix à se parler, à se partager des choses, des joies et des peines.
Même si sur les plans humanitaires et social, il reste beaucoup à faire, la justice a été remise en marche en dépit des violations des droits humains encore en hausse dans certaines régions. L'avocat Mathias Barthélémy Morouba, président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme, souhaite voir un changement en 2019.
Ce serait l'année de démarrage des travaux de la Cour pénale spéciale. Nous voulons que cette Cour-là devienne effective. Ce serait aussi l'année où les victimes vont souffler. Il n'y aura plus d'agression contre les populations civiles. Parce qu'à chaque fois qu'on agresse une population qui n'a pas d'armes pour se protéger, à chaque fois qu'on s'en prend à des personnes vulnérables, je pense que les gens se sont trompés de cible.
Dans ses vœux pour l'année 2019 au centre africain, la coordonnatrice humanitaire Najat Rochdi a regretté des pics de violence en 2018 dans plusieurs régions avec un impact majeur sur des centaines de milliers de femmes, d'hommes et d'enfants innocents. J'espère que l'année 2019 sera celle où nous tous et toutes tournerons le dos définitivement à la violence aveugle, a-t-elle souhaité. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
Les hôtels du sud tunisien affichent complet un retour des vacanciers salutaires pour cette région où le tourisme s'est écroulé suite aux attaques terroristes qui ont marqué la Tunisie. Plus de 8000 visiteurs sont attendus pour cette saison hivernale dans les régions de Tozeur, Douze ou Kébélie. Les touristes, dont une majorité de Tunisiens, passent leurs vacances dans le Sahara où diverses activités culturelles sont organisées pour promouvoir les richesses du désert. Notre correspondante Kedi Mabrouka nous en dit plus.
C'est la période la plus attendue de l'année pour Khalil, un guide touristique de la région de Douze. Khalil et ses amis ont toujours vécu du tourisme, la principale source de revenus de la ville, avec la production de dattes. Cette année, Khalil se dit très content car le nombre de touristes a augmenté par rapport aux années précédentes.
Quand nos touristes étrangers et tunisiens viennent, on les prend pour une visite dans le désert. Ils peuvent faire aussi du tour de quad. Ils mettent les écharpes que nous utilisons ici dans la région et nos habits traditionnels du sud aussi. On leur donne à manger du pain de Mella, notre pain traditionnel. Ces traditions sont nouvelles pour les touristes. Le Sahara est exotique et typique pour eux. C'est une découverte pour tous ceux qui viennent ici.
C'est sur cette place que les habitants de Tozeur célèbrent depuis 40 ans le Festival international des oasis de Tozeur. Des centaines de visiteurs assistent aujourd'hui au spectacle de plusieurs troupes folkloriques.
C'est très important d'abord de revivifier ces traditions, ce patrimoine, cet héritage qui est assez important, et de le rendre en adéquation avec l'économie culturelle solidaire, sociale, à travers le tourisme, l'exploitation de l'artisanat, la locomotion, des activités parallèles qui sont d'un ordre économique et développemental. C'est très important que la tradition, aussi la culture, permette justement d'aller de l'avant.
Chaque jour, des stations de tourisme organisent des caravanes de dromadaires et de calèches pour les touristes tunisiens et étrangers. Ici à Douze, les habitants sont très heureux du retour de visiteurs après une crise qui a marqué la région ces dernières années.
Je ne peux pas expliquer ce qu'on ressent dans le désert. Je navigue aussi, je suis marin. La mer, c'est quelque chose qui, de mes origines bretonnes, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Mais le désert, c'est un peu la même chose, en fait. La solitude, on est dans la nature, loin de la civilisation, entre guillemets, loin de la ville. Un peu livré à nous-mêmes, c'est un petit peu l'aventure.
Le désert tunisien n'a jamais connu d'attaque terroriste. La dynamique vécue par la région cette année aidera les habitants de Djerid à surmonter la récession pendant les mois prochains. Mabrouka Kedir pour VOA Afrique, dans le sud de la Tunisie.
Voilà, Le Monde aujourd'hui, ce sera tout pour cette édition de ce mercredi 2 janvier. Merci de l'avoir suivi à la console Kelvin Fowler, Michel Joseph pour la réalisation et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction, Jean-Roger Billon à ce micro. Nous émettons de Washington. À nouveau, bonne année 2019 à l'écoute de VOA Afrique.